Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous en rendons compte presque tous les jeudis dans Priorité Santé. L'intérêt, la demande pour traiter des questions liées à la sexualité sont très importants. Et pourtant, et malgré tout, la sexualité reste tabou. Difficile de trouver les bonnes informations, d'en parler tout simplement. Il y a les interdits, en particulier pour les jeunes, ou cette façon d'en parler sur un ton parfois vulgaire, en se moquant ou à l'inverse, en vantant ses supposées prouesses. Si bien que la sexualité, certains finissent par n'en parler qu'à leur médecin et encore. Alors certains se tournent vers Internet avec davantage de pornographie que de pédagogie. Sexualité, comment en parler? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. On va essayer bien sûr de faire au mieux. Comment en parler simplement, naturellement? En parler dans le couple, en société, aux enfants et même à l'école? Comment ne pas y associer toujours, systématiquement, uniquement les risques d'infection sexuellement transmissible, de prévention des grossesses non désirées, mais parler aussi des sentiments, des émotions? On attend vos témoignages. Personnellement, comment vous êtes-vous informé? En parlez-vous avec qui? Dans quelles circonstances? Est-ce que certaines questions restent sans réponse? Est-ce que ça a pu vous perturber dans certaines situations? 33 1 84 22 75 75. Posez-nous toutes vos questions.
Priorité santé sur RFI.
Et bien sûr, à mes côtés, pour répondre à ces questions pendant toute la durée de l'émission, vous l'attendez, c'est le docteur Catherine Solano, sexologue. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices.
Alors Catherine, sexualité tabou et pourtant sexualité partout. Comment expliquer ce paradoxe d'un sujet que l'on traite certes, mais souvent plutôt mal?
Oui, je pense que l'explication la plus logique, c'est qu'en fait, on nous a pas tellement parlé de sexualité. Les générations passées, on n'en parlait pas du tout. Donc, on s'est retrouvé avec des enfants en se disant, ça serait bien qu'on essaye de faire mieux, mais sans avoir les outils tellement pour le faire, sans qu'on nous ait expliqué ce qu'il fallait dire, ni quoi, ni qu'est-ce, ni où trouver l'information. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que moi-même, j'ai fait des études de sexologie pour comprendre. Et puis, ça, c'est les générations qui sont parents actuellement. Et les jeunes générations, on en parle plus, mais comme vous le disiez très justement, on en parle souvent mal parce qu'on a un tiers de Internet, c'est de la pornographie. Donc les jeunes, s'ils sont pas informés de manière, correcte, ça va être par la pornographie. Ça va être aussi une chose dont on parle peu, mais qui a une énorme influence par les séries américaines qui présentent la sexualité comme un truc sans conséquence. Allez hop. Et il y a des études qui montrent que plus on regarde de séries, plus on a des rapports précoces, plus il y a de grossesses non désirées,
etc. Avec des clichés.
Avec des clichés, exactement. Ou, comme vous le disiez, par des blagues. Bon, il y a des blagues qui sont pas mal, qui peuvent apprendre des choses. Il y en a d'autres qui sont un peu plutôt graveleuses. Soit en se vantant, soit sur le plan médical, si un médecin vous dit votre médicament peut avoir vous donner des problèmes sexuels ou vous, si vous osez poser la question. Mais même à l'heure actuelle, même en France, même à Paris, moi, je peux vous dire que j'ai des patients qui me disent, ça fait 10 ans que je me dis que je dois venir vous consulter. J'ai pas osé, j'ai mis 10 ans à me décider. Et en partant, ils me disent, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Ça fait partie de la vie. La sexualité, finalement, c'était pas compliqué comme je croyais. Donc, entre l'excès de mauvaises informations et le manque total de bonnes informations, c'est vrai que vous avez cité en dernier l'école. Je pense qu'effectivement, l'école a un rôle à jouer important aussi. Les parents aussi, évidemment. Tout le monde doit s'y mettre, quoi. Et sans compter, je rajoute, excusez-moi,
attention,
Caroline,
oui.
Sans compter tout ce qu'on entend avec MeToo, les agressions sexuelles, etc., qu'il y a quand même une éducation aussi à faire, pas seulement sur comment ça se passe quand ça va bien, mais prévenir les agressions et prévenir les personnes pour qu'elles se défendent aussi. Enfin, donc, il y a beaucoup de travail à faire.
Il y a du travail à faire quand on veut parler de sexualité à l'extérieur, mais y compris quand certaines personnes partagent l'intimité. Pas facile pour autant de mettre des mots sur la relation charnelle.
Oui, vous avez raison, Caroline. Étant donné qu'on ne nous en a pas parlé, déjà, c'est pas facile d'en parler tout court. Mais alors, dans le couple, on a encore moins de modèles parce que Évidemment, on n'a pas vu nos parents parler de sexualité ensemble. Déjà parce que c'était tabou, mais en plus parce que même si ça ne l'était pas, c'est bien normal que les parents n'exposent pas leur sexualité à leurs enfants.
Si possible, du coup, oui, c'est mieux.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, en fait, je pense que chaque couple doit créer un nouveau monde un petit peu. Il a son langage. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des petits mots pour parler des choses quand c'est pas facile ou qui peuvent être très crus pour certains, mais c'est dit de manière très gentille. Enfin, chacun doit créer un petit peu sa manière de communiquer. Et c'est pas instantané. Moi, je vois que beaucoup de personnes qui sont très jeunes disant avec ma copine, on n'arrive pas à parler de sexualité, ou avec ma femme, on a 25 ans. Ben, je dis oui, mais ça vient petit à petit. C'est pas forcément en 10 minutes qu'on va, ça y est, se dire on est à l'aise pour parler de sexualité. Donc, il faut savoir prendre le temps aussi.
Alors, on va justement tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé, aux auditrices.
Priorité Santé sur RFI.
Et on va commencer en partant pour le Tchad, la ville de Sahar, avec Raoul en ligne. Bonjour Raoul.
Bonjour Madame Caroline, bonjour Dr Solano.
Bonjour Raoul.
On est à votre écoute, allez-y.
D'accord. Moi j'ai un problème avec ma copine. Quand on veut faire l'amour, quand je passe au préliminaire, elle n'est pas du tout d'accord avec moi. Mmh. Et nous vivons ensemble depuis presque 5 ans. Mmh. Et il y a de cela que elle dit que l'autre là, les préliminaires ne passent son domaine. Mmh. Elle ne se sent pas à l'aise quand je la caresse. Elle n'accepte pas l'idée d'être caressée. Elle me dit qu'elle ne se sent pas à l'aise. Je lui avais demandé pourquoi elle a ce sentiment. Elle me dit qu'elle n'est pas à l'aise, c'est tout. Elle n'arrive même pas à le convaincre. Oui.
Elle n'aime pas que vous la touchiez, par exemple, c'est ça?
Oui. Elle n'aime pas que si on veut faire l'amour, elle aime directement la pénétration. Mmh. Et moi, cette habitude ne m'intéresse pas. Et vice versa, elle aussi, elle n'aime pas les premières et ça me dérange. Qu'est-ce que je peux faire pour la ramener?
Docteur Solano.
Oui, alors quand vous dites elle n'aime pas les préliminaires, de quoi vous parlez exactement? Est-ce que vous voulez dire elle n'aime pas que je lui caresse les cheveux, les épaules, les seins, etc., des choses comme ça? Ou est-ce que vous parlez des caresses sexuelles, vraiment de la zone sexuelle?
Des caresses sexuelles, quand surtout son clitoris, son vagin, tout ça, elle n'est pas d'accord.
Et par contre, quand vous lui faites des caresses sur les épaules, sur le dos, sur les jambes, les fesses, etc., là, elle est d'accord ou pas?
D'accord.
Elle est d'accord?
Oui.
Ok, ça veut dire que c'est seulement les caresses de la zone. Donc déjà, si vous voulez, les préliminaires, c'est quand même aussi les caresses sur le corps d'abord, c'est important. Alors, c'est intéressant votre question parce que il y a quelque chose que les hommes doivent savoir. C'est que les femmes n'aiment pas du tout que leur partenaire, en général, il y a des exceptions, mais les femmes n'aiment pas que leur partenaire aille directement sur leur clitoris. Parce que c'est une zone sensible, ça a besoin d'être éveillé avant. Et donc, j'en profite pour dire, en général, c'est le contraire pour les hommes. Ils aiment que les femmes aillent directement sur leur zone sexuelle. On n'est pas fait pareil. Notre fonctionnement n'est pas le même. Donc, on a tendance à faire à l'autre ce qu'on aimerait recevoir. Donc, les hommes ont tendance à aller directement sur la zone sexuelle, pas parce qu'ils veulent pas faire de caresses sur le corps, mais parce qu'ils croient que c'est agréable pour une femme. Or, il faut, avant de caresser le clitoris, la vulve, les petites lèvres, il faut faire des caresses sur le ventre, sur les fesses, sur les cuisses, à l'intérieur des cuisses, embrasser le ventre, embrasser les cuisses, etc., pour que votre amie, elle ait envie que vous lui fassiez des caresses plus sexuelles. Si vous y allez trop rapidement, ben c'est normal qu'elle soit pas à l'aise parce qu'elle n'est pas encore en état d'excitation suffisant pour apprécier. Parce que si vous voulez le clitoris, pour prendre cette zone qui est la plus sensible, en temps normal, vous touchez le clitoris d'une femme, ça lui fait rien parce qu'il n'est pas excité. Il faut que il y a comme un interrupteur qui se met en route et que il y a une excitation, ça y est, il devient sensible. Et pour qu'il devienne sensible, il faut des caresses ailleurs. Sinon, c'est pas agréable. C'est pareil pour le pénis, mais souvent, ça s'éveille très vite. L'interrupteur se fait plus vite, en fait. Je sais pas pourquoi on n'est pas fait pareil. Donc, il faut que vous essayiez de... Alors d'abord, il faut lui dire, c'est normal que tu sois pas à l'aise vu l'éducation qu'on a eue. C'est certainement dû à ça. À moins qu'elle ait eu des attouchements ou des choses comme ça. Ça vaut quand même le coup de lui poser la question, lui dire, tu sais, il y a des femmes qui sont pas à l'aise parce que elles ont subi des attouchements, par exemple, et leur zone sexuelle se crispe dès qu'elles sentent quelqu'un approcher.
Ça reste associé à un très, très, très douloureux souvenir.
Et c'est quand même fréquent. Est-ce que vous avez déjà demandé cette question à votre amie?
Oui, je lui pose souvent des questions, mais elle ne me donne pas des raisons pour lesquelles elle ne veut pas que je caresse son sexe.
Voilà.
Elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise.
Voilà. Mais alors, est-ce que vous lui avez demandé, as-tu déjà subi des attouchements? Est-ce que quelqu'un, quand tu étais petite ou plus grande, a mis la main dans ta culotte ou a voulu te toucher ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous lui avez posé cette question précise?
Non, je n'ai pas posé cette question.
Eh bien, posez-lui, parce que si vous voulez, il y a des femmes qui ont un blocage et qui ne font pas, qui vont pas vous dire c'est à cause de ça, parce qu'elles se disent il y a longtemps, ça n'a rien à voir, et elles ne pensent pas que ça peut être dû à ça. Donc, il faut d'abord lui poser cette question. Et en deuxième, lui faire vraiment des caresses autour de la zone sexuelle avant d'y arriver, mais pendant au moins, je vais vous donner un chiffre, parce que beaucoup d'hommes disent, je lui fais beaucoup de caresses avant, et pourtant ça marche pas, il faut au moins 20 minutes de caresses non sexuelles. 20 minutes, c'est long, hein. Pour un homme, c'est long. Alors, évidemment, quand une femme est en état déjà d'excitation, qu'elle a envie de faire l'amour, ça peut passer à 5 minutes. Hein. C'est pas toujours 20 minutes obligatoire, mais l'idéal, c'est d'avoir des préliminaires assez longs. Et j'ajouterais de faire des caresses sur les seins aussi, en particulier sur les mamelons, parce que c'est un endroit qui éveille la zone sexuelle. Si vous voulez, quand vous caressez les seins, en fait, il y a de l'ocytocine qui circule et qui va éveiller la zone sexuelle aussi. Donc, il faut faire des caresses sur les seins. L'idéal, c'est 10 minutes chaque sein. Ça a été étudié. 10 minutes, c'est très long. Bon, je vous dis pas
qu'il
faut...
Mais le chronomètre, c'est pas très romantique.
Non, c'est pas romantique.
Non, mais c'est se donner une idée quand même.
Mais je le dis parce que ça m'est arrivé une fois à la radio qu'un homme dise, moi, je fais des très longs préliminaires. Pourtant, ma partenaire n'est pas satisfaite. Et on lui avait dit, mais combien de temps? Il avait dit 3 minutes. Ben, c'est juste pour dire que faut que ça soit vraiment assez long. Donc, j'espère, Raoul, que ces quelques conseils vont être utiles avec votre ami. Et dites-lui aussi, c'est normal de pas être à l'aise parce qu'on a tous eu une éducation, surtout les femmes, qui nous disaient, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et du coup,
Du jour au lendemain, on demande tout l'inverse.
Voilà, du jour au lendemain, il faudrait être à l'aise et tout ça. Bon, ben non, c'est pas possible, il faut du temps.
Voilà, Raoul, on vous souhaite une très bonne journée au Tchad. On va partir en République démocratique du Congo, retrouver Elisa, elle est à Kinshasa. Bonjour, Elisa. Elisa, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Le docteur Catherine Solano est à votre écoute. Allez-y.
Bonjour, Elisa.
D'accord. En fait, moi, je pense qu'il est vraiment important d'exprimer ses désirs, ses envies, de dire clairement ce qu'on veut à son compagnon. Parce que moi, d'habitude, je suis du genre à dire clairement les choses à mon compagnon. Je lui exprime clairement mes désirs. Et il est content. Il adore ça. Souvent, il me dit que ses amis, ses proches se plaignent de leurs copines, de leurs femmes, qu'elles font jamais le premier pas, qu'elles n'expriment pas clairement ce qu'elles veulent, elles ne disent pas ce qu'elles désirent et tout. Alors lui, il me dit qu'il n'ose pas leur dire que pour lui, c'était le contraire, parce que moi, je lui dis tout. Et qu'il ne dit pas ça de peur qu'ils veulent tous m'avoir.
Elisa, alors, vous avez toujours été comme ça? Ça a toujours été pour vous très, très facile de parler des choses?
Oui, c'est dans ma nature. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est à cause de mon éducation. Moi et ma mère, on parle souvent de la sexualité, on se dit clairement. C'est comme une copine pour moi. Et voilà. Et je trouve que le côté positif de cela, ça nous a beaucoup rapprochés. On est vraiment assouvi, il m'écoute et souvent quand je lui parle de ce que je veux, il est vraiment attentif. Et voilà, je conseillerais aux filles de faire ça parce que moi, mes copines, elles me disent souvent, je n'arrive pas à lui dire, mais comment toi tu fais? Je dis, moi je fais comme ça dans ma nature. Voilà.
Ce qu'on entend, hein, docteur Solano, avec ce témoignage d'Elisa, c'est que d'une certaine manière, bien communiquer, c'est mieux s'épanouir.
Oui, vous voyez, et puis c'est mieux s'épanouir et mieux se rapprocher, se sentir plus proche. Et c'est ça qui est important.
La connexion.
Dans un couple. Et j'en profite pour dire quelques petites choses importantes. C'est que beaucoup de femmes disent, moi, pour pouvoir faire l'amour, j'ai envie que mon partenaire me dise qu'il m'aime, me dise je t'aime, ou pour être heureuse. Eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui disent, moi, j'ai besoin que ma partenaire me dise je te désire. Parce que pour un homme, c'est très important de se sentir désiré. Et j'ai un petit peu creusé le sujet. Beaucoup d'hommes disent, ben oui, parce qu'on a tout le temps l'impression que les hommes ont du désir, que c'est un petit peu des, peut-être pas des pervers, mais qui pensent qu'à ça, voilà, on le dit. Et alors, quand une femme, quand notre femme nous dit, je te désire, on se dit, ouf, elle aussi, elle aime faire l'amour, c'est pas juste moi qui est tout le temps en vie, elle jamais. Donc, ça recrée un équilibre qui est très important pour les hommes, pour qu'ils se sentent épanouis. Et puis, donc ça, je voudrais dire aux femmes, si vous désirez votre partenaire, ben dites-le lui. Ou alors d'autre part, c'est pas facile de parler comme on n'a pas eu comme Elisa quelqu'un auprès de nous avec qui on pouvait parler de sexualité. Donc vous, Elisa, vous avez pu en parler avec votre maman facilement, comme avec une copine, c'est facile. Donc c'est super, vous avez été entraînée, je dirais, à parler de sexualité. Et donc quand on ne l'est pas, on a beau se dire « il faut le faire », on n'y arrive pas. Alors il y a une technique toute simple, c'est de se parler dans sa tête, de se dire « qu'est-ce que je pourrais trouver comme phrase à dire à mon partenaire ?» qui serait relativement facile pour moi. Est-ce que c'est « je te désire » ? Est-ce que c'est « j'ai envie de faire l'amour avec toi » ? Est-ce que ça te dirait pas de faire un petit câlin maintenant ? Ou est-ce que ça te dirait de faire une sieste crapuleuse, comme on dit quelquefois, de trouver le vocabulaire et la phrase adaptée qui vous convient. Mmh. Et de la répéter dans votre tête, de vous imaginer en train de lui dire. Parce que si vous vous dites simplement « il faut que je lui dise quelque chose », ben, ça va pas venir, parce que vous savez pas quoi. Si vous trouvez une manière qui vous convient, qui vous correspond, vous allez vous le dire dans votre tête 10 fois, 20 fois, et puis un jour, ça va sortir tout seul, et votre partenaire sera très content.
Voilà, Elisa, et merci beaucoup pour votre témoignage. Excellente journée à Kinshasa. On retourne au Tchad. On va à N'Djamena retrouver Gédéon. Bonjour, Gédéon.
Ouais, bonjour, le studio, Priorité Santé.
Alors, bonjour, le docteur Solano est à votre écoute, allez-y.
Ouais, bonjour, docteur Catherine.
Bonjour, Gédéon.
Oui, bon, moi j'ai une partenaire, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on est ensemble. Nous avons même un projet de mariage, c'est pour bientôt. Mm-hmm. Alors, il se trouve qu'avec elle, depuis le début de notre relation jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à parler sexualité. Dès que j'essaie d'aborder le sujet, elle se plonge dans un silence sans précédent. Elle n'en parle pas, soit elle change de sujet. Mais le problème, c'est que pas plusieurs fois déjà, j'ai essayé comme ça de m'approcher d'elle sans parler. On faisait l'amour. Quand on fait l'amour, on le fait normalement. Mm-hmm. Mais elle n'en parle jamais. J'ai essayé de me renseigner un peu sur son origine. Est-ce que c'est relatif à sa culture ou quoi que ce soit ? Mais je n'ai rien trouvé qui puisse justifier et son silence. Pourtant, très souvent, j'ai envie qu'elle me dise à tel moment elle a envie de faire l'amour, à un tel moment elle n'en a pas envie, et ainsi de suite.
Vous sentez qu'elle est gênée, donc, qu'elle se retranche, qu'elle baisse les yeux, qu'elle est vraiment mal à l'aise ou même que ça pourrait la mettre en colère ?
Exactement. Elle finit même par se mettre en colère. Il y a des fois où, voilà, quand elle vient me rendre visite, il suffit que je commence à parler de sexualité, elle finit par s'en aller. Hein. Elle quitte, elle sort de la chambre, elle s'en va. Mmh. Et voilà, ça c'est pour rentrer directement.
Vous disiez, vous êtes intéressé à savoir comment ça se passait, essayer de comprendre si c'était par exemple sa famille. Est-ce que vous lui avez posé directement la question ? Est-ce que dans ta famille, on t'a dit que c'était, je mets des grands guillemets, hein, on t'a dit que c'était honteux, que c'était pas bien d'en parler, que c'était interdit ? Est-ce que vous lui avez demandé directement à elle ?
À elle, oui, j'ai posé plusieurs fois ces questions-là.
Et mais qu'est-ce qu'elle a dit ?
Je commence par là, ouais. Elle s'arrête, elle arrête toute discussion. Mais j'ai essayé de passer par plusieurs méthodes, lors des promenades, lors des voyages. J'ai toujours essayé de profiter des moments opportuns pour pouvoir aborder la question, mais toujours est-il que ça ne marche pas. Mmh.
Docteur Solano.
Eh ben, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque et on sait pas trop quoi. Vous savez pas trop quoi. Et je me dis, pour vous donner des idées de, peut-être que vous pourriez nous dire, quand vous lui parlez de sexualité, qu'est-ce que vous lui dites exactement, par exemple?
Bon, au début, lorsque moi j'ai commencé, je lui ai dit, bon, comment elle trouve quand on essaie de faire le sexe ensemble. Mm-hmm. Et surtout, je lui ai posé des questions relatives à sa culture, parlant du sexe. Mm-hmm. Voilà. Et quand j'ai commencé par là, soit elle froisse le visage, elle dit elle n'aime pas parler de ça. Au début, c'était comme ça.
Ah ouais.
Mais à la suite, c'est fini. Elle n'en parle même plus.
Ah oui. D'accord.
Est-ce qu'elle vous explique pourquoi elle n'aime pas en parler? Est-ce qu'elle vous dit qu'elle trouve ça sale? Est-ce qu'elle vous dit qu'on ne doit pas prononcer ces mots-là parce que c'est interdit, par exemple, par la religion? Est-ce qu'elle vous dit des choses comme ça?
Elle ne me donne jamais des explications.
Il n'y a pas d'explication.
C'est ce qui me laisse vraiment perplexe.
Mmh. Alors, moi, je vais vous donner plusieurs pistes, mais c'est pas évident. La première chose, vous avez dit, j'aimerais bien, en gros, après l'amour, qu'elle me dise ce qu'elle aime bien, ce qu'elle a aimé ou pas. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous avez fait l'amour tous les deux, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même pas de blocage à ce niveau-là, c'est déjà important. Et après avoir fait l'amour, que vous lui disiez, moi, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est quand tu étais sur moi ou quand tu m'as caressé le dos ou les fesses ou n'importe quoi, vous lui dites, moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Parce que souvent, le fait de dire vous-même ce que vous avez aimé, parce que si elle a l'impression que vous allez chercher ce qu'elle pense, mais que vous lui dites pas beaucoup, ben, elle se sent pas à égalité. Donc, c'est plus difficile. Si vous commencez à lui dire, moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? Peut-être que ça viendra peut-être pas la première fois, mais peut-être plusieurs fois. Le deuxième conseil que je peux vous donner, enfin j'en ai même trois. Le deuxième, c'est de lui dire, écoute, moi j'ai un souci dans notre couple, on va bientôt se marier. On est heureux tous les deux, ça, bah, c'est pour ça qu'on se marie. Mais je vois que tu veux pas parler de sexualité. Bon, bah, ça, c'est ton choix. Néanmoins, j'espère qu'on aura des enfants. Et moi, je voudrais pas que nos enfants aient des blocages plus tard dans leur vie. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on réussisse à en parler. Pas de manière pornographique ou quoi, mais de manière naturelle. Ne serait-ce que pour la santé, si un jour ils ont un problème, si nous on en a un, il faudra bien qu'on en parle. Et quelquefois, quand on parle à une femme de ses enfants, là, elle se dit, pour mes enfants, je vais peut-être faire un petit effort. Mmh. Vous voyez? Bon, ça peut être un levier. Autrement, je voulais vous dire une autre chose. Ah oui, c'est ça. Peut-être que vous pourriez lui écrire. Lui dire, tu vois, je me sens malheureux, que je sens que tu as un blocage. Si tu ne peux pas parler, est-ce que tu peux m'écrire quelques mots pour me dire ce qui se passe? Et je ne sais pas si ça sera facile pour elle d'écrire, mais vous pouvez lui poser des questions. Est-ce que c'est à cause de tes parents? Est-ce que quelqu'un t'a fait des attouchements? Est-ce que tu as eu une agression, peut-être, des fois? Est-ce que tu as peur d'être ridicule? Est-ce que... Et peut-être que par écrit, des fois, ça débloque quelque chose.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible, Gédéon? C'est différentes pistes.
Là, je crois que j'ai une nouvelle piste qui va vraiment m'avantager, il semble. Surtout le point d'écrire. Je vais essayer de lui laisser les écrire, les SMS, peut-être même sur les bouts de papier, et voir ce qui va se passer ensuite. Mm-hmm.
Un papier, c'est pas mal, parce que des fois, le SMS, ça peut arriver un petit peu à n'importe quel moment de la journée, quand on n'est pas tout à fait préparé, alors que le papier, on l'ouvre quand on en a envie, et c'est moins violent que, j'imagine, si on est avec des amis ou dans la rue, de recevoir quelque chose qui parle d'un sujet qu'on n'aime pas trop aborder, c'est pas
vrai.
Toujours agréable.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, Gédéon, si jamais tout ça, ça se débouche et que tout ça, ça permet de redonner de la fluidité dans la conversation, eh bien, bon courage à vous et n'hésitez pas à nous le faire savoir si ça marche lors d'une prochaine émission.
On sera content.
Voilà. Très bonne journée à N'Djamena. On part au Cameroun. On part à Yaoundé avec Sophia en ligne. Bonjour, Sophia.
Bonjour, Caroline Paris.
Et bonjour, Sophia. Le docteur Solano est avec vous. Allez-y.
Bonjour, docteur.
Bonjour, Sophia. On vous écoute.
Alors, en matière de sexualité, moi, j'en parle beaucoup avec mes amis filles notamment, avec mon partenaire aussi. On en discute énormément. Et je vous assure, ça m'aide énormément de discuter de la question. Ça me rassure à chaque fois. Disons que j'ai un problème au niveau de la pénétration lors des rapports sexuels. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais la discussion avec mon partenaire, il me rassure. Il me dit que ça va aller. Il est assez compréhensif sur la question, quoi. Donc, toutefois, il demeure une question, justement, le problème de la pénétration. Comment faciliter la pénétration?
Excusez-moi, Sophia, la difficulté que vous évoquez, c'est quoi? Ce sont des douleurs? C'est quoi?
Oui, je pense que ce sont des douleurs. Ça fait extrêmement mal et j'ai pas envie. À chaque fois qu'on a ce niveau, je lui demande d'arrêter. Bien qu'il se sente mal, mais il arrête quand même pour moi.
Docteur Solano. Ouais.
Alors ça, c'est ce que vous décrivez, c'est vraiment important. C'est que quand une femme a une douleur à la pénétration, il faut arrêter tout de suite. C'est donc votre ami. D'ailleurs, ce qu'on entend, c'est que du coup, vous pouvez recommencer. Parce que si jamais on insiste, et je voudrais dire que c'est pas toujours l'homme qui veut insister. Il y a des femmes qui disent, mais vas-y, il faut qu'on y arrive. Et c'est pas une bonne idée du tout, parce que si le corps a mal et qu'on, c'est un message pour dire stop. Si on continue, le corps se dit, mais elle a pas l'air de comprendre, ils ont pas l'air de comprendre que j'ai mal, et ils se bloquent de plus en plus. Donc si on force, ça bloque. Donc déjà, vous avez la bonne attitude d'en parler et de respecter la douleur et de pas insister. Ce qu'il faut faire normalement quand on a des douleurs à la pénétration qui se répètent, c'est déjà voir un gynécologue. Parce que, il faut un examen gynécologique, vous voyez, on est quel jour? Il y a 2 jours, il y a une gynécologue à qui j'ai envoyé une patiente qui avait des douleurs, elle m'a écrit, votre patiente avait une bride qui se déchirait un petit peu à chaque rapport, c'est un tout petit, c'est toute petite fissure, c'est 3 fois rien, ça se voit
bien,
mais ça lui faisait mal à chaque fois, donc elle dit, on va lui faire une opération, évidemment, une petite opération, mais c'est pour ça qu'elle avait mal, c'était pas psychologique, donc déjà, important de voir s'il n'y a pas une petite anomalie. La deuxième chose, après, s'il n'y a pas d'anomalie, c'est d'utiliser beaucoup de gel lubrifiant. Parce que il y a des femmes qui ont une pas très bonne lubrification pour diverses raisons, soit par exemple à cause d'une pilule contraceptive ou d'un médicament. Donc là, je parle pas seulement pour vous, je parle soit parce que, eh bien, comme elles ont peur d'avoir mal, elles ont moins d'excitation et du coup, ben, il y a moins de lubrification naturelle. Le fait de mettre du lubrifiant beaucoup, beaucoup sur la vulve entre les petites lèvres fait qu'on a moins mal et que la fois d'après, on a moins peur et ça peut débloquer la situation. Ensuite, une chose très importante, bon, mais je pense que vous devez le faire, mais je le dis pour ceux qui débutent surtout, c'est de bien écarter les petites lèvres pour faire la pénétration parce que souvent, les personnes débutantes pose le pénis, pousse et la petite lèvre est entraînée à l'intérieur du vagin et ça tire et ça fait mal. Donc, il faut bien écarter les petites lèvres. Et puis, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de préliminaires parce que les préliminaires, on considère qu'il faut au moins 20 minutes de caresses préliminaires sur le corps puis sur la zone sexuelle avant que les petites lèvres se gonflent, que le vestibule se gonfle, se lubrifie et soit prêt à recevoir une pénétration qui soit pas douloureuse. Donc, tout ça, c'est les conseils pratiques de base, hein, évidemment. Après, il y a une question, c'est est-ce que votre vestibule, est-ce que votre vulve a subi quelque chose dans le passé qui pourrait expliquer qu'il ait des douleurs aussi? Soit, bon, encore je vais parler des attouchements, mais soit avoir vu des choses qui peuvent lui faire peur, soit avoir entendu. Si par exemple, il y a des femmes qui ont des blocages parce qu'on leur a dit que l'accouchement c'était horrible, que la première fois c'était horrible, et donc leur cerveau a peur et dès qu'on touche cette zone, il se crispe. Je sais pas si vous avez une réaction, Sophia, à tout ce que je vous dis.
Oui, c'est vrai que psychologiquement, déjà, j'ai peur parce que ce qu'on dit de la pénétration, c'est que ça fait mal lorsque c'est la première fois, ce qui est mon cas, c'est la première fois, et on dit que ça fait très mal, il y a un écoulement de sang, et tout ça, donc, toutes ces images-là me font peur à chaque fois, et je me dis, je peux même avoir une déchirure à ce niveau, du coup. Du coup, c'est difficile.
Oui, parce que la première fois, ça peut faire mal, mais je lisais les statistiques dernièrement. On considère maintenant qu'il y a 1 femme sur 2 qui a mal la première fois et qui saigne. C'est pas tout le monde du tout. Donc, et puis d'autre part, même quand ça fait mal et que ça saigne, c'est pas du tout une opération chirurgicale, un rapport sexuel. Hein. L'hymen, il est fait pour se déchirer. Donc, c'est quelque chose qui est très fin, qui est étudié par la nature pour laisser rentrer le pénis et pouvoir avoir des rapports sexuels.
Mais d'autant plus que s'il y a des témoignages qui disent ça a été douloureux la première fois, c'est pas forcément des femmes qui ont eu un partenaire attentif. Ce ne sont pas forcément des femmes qui ont eu quelqu'un avec qui elles avaient communiqué, comme vous, Sophia, votre partenaire qui est à votre écoute. Donc, ça peut être aussi tout simplement de mauvaises expériences. d'expérience sur ces statistiques.
Tout à fait.
Donc ce n'est pas votre cas. Vous, si vous y allez à votre rythme, hein, j'imagine, docteur Solano, on peut vraiment dire à Sophia, c'est pas parce qu'on a entendu des choses que c'est la réalité.
Oui, et puis on va vous faire entendre d'autres choses. C'est que normalement, eh bien, la pénétration, c'est agréable. Ça donne du plaisir. Hein, moi, je me rappelle une de mes patientes, ça m'avait sidérée. En consultation, elle me dit, oh bah oui, mais moi j'ai mal, mais c'est normal. Moi, je le sais, les femmes, ça leur fait toujours mal. On le fait que pour les hommes. Mais je lui dis, mais dans quel monde vous vivez? Mais pas du tout. Faire l'amour, c'est agréable pour les femmes aussi. C'est quelque chose qui fait plaisir, dont on a envie normalement. Et donc, c'est vrai que on peut avoir une petite irritation, on peut avoir une mycose, on peut avoir des petits soucis et ça peut être sensible. Bon, c'est pareil pour les hommes, ils peuvent avoir des petites fissures au niveau du pénis ou du prépuce, etc. Mais normalement, c'est agréable.
Mais ça veut dire qu'il faut aussi se débarrasser de tous ces préjugés, tout ce qu'on a entendu, quand toutes ces imbécilités aussi.
Ah bah oui, parce que franchement, je me demande à quel point on n'essaye pas de dégoûter les femmes pour qu'elles n'essayent pas d'avoir les jeunes filles, je veux dire, des rapports sexuels, qu'elles se disent, comme ça va faire mal, je vais pas avoir de rapports sexuels. Et donc, les parents se disent, je suis tranquille, elle ne va pas être enceinte, comme on lui a présenté ça comme quelque chose d'horrible. Mais c'est triste parce qu'après, dans la vie, c'est quand même important d'avoir un couple qui s'entend bien, qui trouve une harmonie. Bon, vous avez l'air déjà d'avoir choisi le bon partenaire, je disais, quelqu'un qui est attentionné, attentif.
Alors, est-ce qu'il y aurait des conseils pratiques pour Sophia, docteur Solano?
Après, Caroline, c'est pas facile de laisser tomber les idées reçues, dans le sens où, déjà, on le sait avec l'intelligence que c'est pas vrai, mais des fois, on a peur quand même. Donc, les conseils, je pense que c'est surtout pourvu d'utiliser, et d'abord, de voir un gynéco, d'avoir un examen, parce que des fois, à la première fois, il y a un hymen très épais. Et donc, ça peut faire mal s'il est trop épais. Des fois, il faut une petite intervention. Donc là, c'est sûr qu'il faut pas insister en se disant tout est dans la tête. Après, quand tout est normal, il faut utiliser beaucoup de lubrifiants pendant pas mal de fois, de manière à ne pas avoir mal du tout. Et vous dire que le vagin, c'est quand même fait pour accoucher. Donc, ça peut se distendre de 10 cm. Donc, une pénétration, normalement, ça fait pas mal du tout. Je connais aucun homme qui a un pénis de 10 cm de diamètre. Heureusement, parce que c'est la taille de la tête des bébés. Donc, c'est pas quelque chose... Le vagin, il est fait pour ça, pour se détendre, pour se relaxer, pour avoir du plaisir.
Voilà, Sophia, pour tous ces conseils. On vous souhaite une excellente journée à Yaoundé. Et on va partir pour... On retourne en RDC, la ville de Minova, avec Chance. Chance qui nous appelle pour ce témoignage. Bonjour, Chance.
Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs de la RDC.
Bonjour Chance.
J'espère que la ligne reste avec nous. Chance, on vous écoute. Allez-y.
Oui, je voulais donner aussi mon témoignage par rapport à la sexualité, la question de savoir si on en parle ou pas. Nous qui sommes enseignants, parce que je passe mon stage actuellement et on essaie d'enseigner les enfants. Et quand on essaie de parler par rapport à la sexualité, vous verrez qu'il y en a de ces enfants-là qui se taisent, ils ne veulent même pas en parler. Et c'est là qui essaie de parler, souvent sont des garçons, parce que les filles là se taisent pour ne pas être mal vues. Parce qu'ici chez nous, la culture est considérée, quelqu'un qui parle beaucoup du sexe, là, on risque même de les classer parmi les prostituées. Alors, qu'une prostituée chez nous et a du mal à avoir un mari. Alors, c'est là pour à nos filles, et, quand il s'agit d'une question de sexualité, elles se taisent en classe, elles laissent que les garçons puissent y répondre, et les garçons aussi qui essaient de parler puis de ça. Alors, quand nous enseignons, ça devient pour nous un problème. Il y a de ces questions-là qui nous posent, qui devraient être posées soit à la maison, aux parents, aux membres de la famille, mais... Quand nous arrivons en classe, ils nous posent. Et quand vous essayez de répondre à une question, d'autres viennent, en provenance surtout chez les garçons. Alors, c'est les problèmes que nous avons, c'est-à-dire les garçons des 12 à 14 ans, et même les filles, et ceux qui nous enseignent.
Alors, justement, les questions qu'ils vous posent, en tout cas, ça vous montre que de sexualité, ils n'en ont pas parlé à la maison.
Oui, c'est-à-dire ils veulent savoir beaucoup de la sexualité parce qu'ils sont un peu éloignés de leur famille. Alors, ils veulent les poser à l'enseignant, bien qu'ils ont aussi des difficultés parce qu'ils étudient avec les voisins, les amis, tout ça. Alors, ils ne veulent pas qu'ils puissent se mettre dehors, hein, ou soit se mettre à l'abri de tout le monde pour que tout le monde puisse savoir et celui-ci aussi parler de ceci ou de cela.
Et les questions qu'ils vous posent justement, Chance, vous disiez certaines, c'est parfois compliqué d'y répondre. C'est quoi concrètement ce type de questions?
Oui, par exemple, bon, j'avais essayé d'enseigner par rapport au sida, nous avons parlé du préservatif. Puis je leur ai demandé quel est le rôle du préservatif. Par exemple, pour eux, ils ont été mal, c'est tout le monde qui s'est dit, ils n'ont pas voulu parler. Mm-hmm. Et puis quand moi j'ai essayé d'y répondre, j'ai dit que le préservatif est là pour protéger, c'est là qu'ils font les relations sexuelles, soit contre la grossesse et non désirée, soit les maladies infectieuses, tout ça. Et puis, ils m'ont demandé comment on utilise ça, comment on porte ça, tout ça. Alors, j'ai compris que peut-être chez eux, ils ne savent pas par rapport à quel est le rôle des préservatifs et comment est-ce qu'on peut se protéger contre la grossesse à la maison. Alors, quels sont les parents peut-être qui devraient apprendre à leurs petites filles, à leurs garçons, comment se protéger contre tout cela.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils connaissent bien leur corps, ces enfants ? Qu'ils savent, par exemple, s'ils ont des bases en anatomie, s'ils savent désigner les différentes parties du corps, ou tout ça, c'est très abstrait?
Bon, ces enfants-là savent, mais ils les savent. Donc, sont des, ils reçoivent des informations en provenance de leurs camarades. Donc, ils se parlent entre eux, comme des filles se parlent entre elles. Les garçons aussi se parlent entre eux. Donc, ils peuvent avoir une connaissance commune pour soit tes trois filles ou quatre, et les autres filles restantes auront aussi leur connaissance un peu mise à part.
Et ça se pose pas de problème par rapport à la famille? Il n'y a pas des parents qui viennent vous voir en disant « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter à nos enfants? Vous êtes en train de leur mettre des idées dans la tête. » Ça se passe bien, c'est comment?
Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore ici qu'il y a des parents qui viennent chez nous, parler de ce que leurs enfants leur ont raconté, mais plutôt sont les enfants qui nous appellent. Ils nous disent que tel enseignant, c'est un prostitué. Tel enseignant a parlé des choses bizarres. C'est qu'ils nous ont
Donc, quand même, c'est pas simple. Docteur Catherine Solano, c'est très intéressant, hein, ce témoignage de chance.
Ouais, c'est très intéressant. D'abord, je voudrais dire une chose aux personnes qui nous écoutent, aux parents comme aux enseignants comme à vous, chance. Ce qu'on sait actuellement, c'est que quand on parle de sexualité aux jeunes de 10, 11, 12, 14, 15 ans, eh bien, ils ont des relations sexuelles beaucoup plus tard que ceux à qui on n'en parle pas. Tout simplement parce que si on vous en parle pas du tout, vous n'êtes quand même pas stupide quand vous avez 14, 15 ans. Vous savez que ça existe, la sexualité, et vous vous dites, bah, puisqu'on veut rien me dire, je vais aller voir par moi-même. Mais c'est vrai, alors ils se disent peut-être pas ça de cette manière-là, mais ils ont envie de connaître ce que c'est. Donc, alors que quand on leur explique beaucoup, ils se disent bon, bah d'accord, je vais voir, je verrai bien, quoi. Donc c'est très important d'en parler, ne serait-ce que pour lutter contre les grossesses précoces, contrairement à ce que beaucoup de parents croient. Ils disent si on leur en parle, ça va leur donner des idées. Mais c'est les hormones qui leur donnent des idées, c'est pas les paroles. Bon. Sinon, je vous dis une chose qu'on fait souvent, chance, c'est que effectivement, c'est pas toujours facile en groupe quand il y a des garçons et des filles de parler. Les filles n'osent pas parler. Et ce qui est pas mal dans ces cas-là, c'est de faire des groupes avec seulement des filles. Parce que si vous voulez, quand elles sont avec des garçons, bah, peut-être qu'elles n'osent pas en parler. Elles se disent, les garçons vont se dire que je suis une prostituée si je pose des questions sur la sexualité. Quand c'est seulement un enseignant avec uniquement des filles, entre elles, c'est parfois plus facile. Et puis, par exemple, si elles vont parler de règles ou de pertes blanches ou de choses comme ça, bah, elles n'oseront peut-être pas trop devant les garçons qui vont ricaner bêtement, souvent. Et du coup, c'est parfois plus facile. Mais c'est pareil pour les garçons. Des fois, c'est plus facile de faire des groupes uniquement de garçons. Et puis, il y a une chose aussi qui me semble très importante. Moi, j'ai fait des interventions aussi dans des collèges. Et ce qui est amusant, c'est qu'entre 12-14 ans, les garçons parlent beaucoup, les filles, pas du tout. Et c'est un peu pareil en France. Mais c'est dû à pas seulement l'éducation, c'est aussi parce qu'un garçon de 12 ans, il n'est pas encore dans sa puberté. Ça va bientôt commencer, mais il dit pas. Donc, il est à l'aise. Les hormones ne le travaillent pas. Il dit, je me rappelle un qui disait, combien de spermatozoïdes il y a par millilitre. Vous voyez,
Dans la biologie.
Voilà, il est encore dans la biologie. Il n'est pas travaillé. Les filles, elles ont déjà des seins qui ont poussé. Elles sont beaucoup moins à l'aise. Et donc, c'est un âge où, d'ailleurs, je me rappelle une question. Pourquoi les filles sont plus grandes que les garçons? Je m'étais dit, c'est bizarre comme question. Eh ben oui, à cet âge-là, elles ont commencé à grandir, mais pas les garçons. Donc, elles sont plus grandes, plus avancées au niveau de la puberté. Donc, il y a aussi un décalage, je pense que c'est pas seulement l'éducation. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on vous encourage à en parler, parce que même si les enfants vous critiquent, vous avez raison de le faire, forcément. Vous faites bouger les choses.
Ouais. Merci beaucoup, Chance, pour ce témoignage. On reste en RDC, on part pour Kisangani, avec en ligne, avec nous, Béni de Dieu. Béni de Dieu, bonjour.
Bonjour Caroline.
Le docteur Solano est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur Catherine.
Bonjour béni de Dieu.
Oui, en fait, j'ai des difficultés à exprimer soit le désir, soit les sentiments que j'ai envers ma petite amie, soit ma compagne. Alors que de son côté, elle le fait avec facilité. Des fois, elle me dit non, je l'aime pas, soit je la trompe. Alors, je voulais savoir si ces difficultés-là, comment les surmonter et aussi comment avancer, soit faire le premier pas vers elle pour exprimer ce que je ressens par rapport à elle.
Ce que vous n'arrivez pas à lui communiquer, c'est quoi ? C'est votre envie, votre désir, ou vous voulez vraiment discuter de choses du quotidien ? De quoi s'agit-il précisément ?
Surtout l'envie. Du quotidien, on discute, on parle de la sexualité, mais de l'envie, vraiment, j'ai des difficultés. Je me retiens souvent pour aller vers elle.
D'accord. Eh bien, je vais vous donner quelques petits conseils, alors. La première chose, peut-être, qui... Je pense que ça sera plus facile pour vous, c'est de lui dire ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est-à-dire de lui dire, écoute, j'ai un problème, je sais pas pourquoi, mais quand je ressens du désir, je n'ose pas te le dire. Peut-être que c'est mon éducation, peut-être que c'est mon caractère, mais j'aimerais bien être plus comme toi, moi j'y arrive pas. Et souvent, c'est assez facile de dire ça, alors que c'est pas facile de dire j'ai envie de toi. Mais si vous lui dites, tu sais, moi je suis embêtée, j'arrive pas à exprimer mon désir, j'ai pas été éduquée comme toi, toi t'es formidable pour ça, ça vous pouvez peut-être le dire, ça vous paraît facile ou pas?
Oui, ça paraît facile.
D'accord. Béni de Dieu, c'est parce que vous avez peur qu'elle ne réponde pas à ce désir, qu'elle réagisse mal, ou c'est juste de la timidité?
Bon, je pense que c'est juste de la timidité, parce que Elle répond toujours, soit bon, quand elle fait le premier pas, soit qu'elle m'informe directement. Bon, moi, de mon côté, je ne refuse pas. Je trouve ça normal. D'ailleurs, j'apprécie ça, mais de mon côté, pour aller vers elle, vraiment, je trouve un peu des difficultés.
Ça veut dire que souvent, vous vous réfrénez, vous êtes un petit peu frustré, vous auriez aimé avoir un moment tendre avec elle et vous n'osez pas lui dire.
Oui, c'est surtout ça. Des fois, vraiment, j'ai un peu... Oui.
Mmh. Donc il faut commencer, et c'est intéressant parce que vous voyez, on dit toujours les femmes n'osent pas parler, mais c'est pas toujours le cas. Un homme aussi peut être timide et réservé, ça dépend pas seulement si on est un homme ou une femme, mais ça dépend beaucoup de notre éducation et de notre caractère. Du coup, commencez par lui dire ça, parce que déjà ça rassure énormément, parce que vous voyez, moi j'ai une patiente qui était comme votre amie, elle me dit, moi je suis mariée. Jamais mon mari ne m'a dit une seule fois depuis qu'on est mariés qu'il avait envie de faire l'amour. C'est tout le temps moi qui fais le premier pas. Il dit toujours oui d'ailleurs, mais elle me dit, moi je n'en peux plus, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'il a pas envie. En fait, il a sans doute envie, mais il n'ose pas. Donc rien que le fait de dire, écoute, j'ai régulièrement envie, mais je n'ose pas, la personne se dit, ouf, quand même. Et c'est pareil dans l'autre sens, si c'est une femme qui n'ose pas, qu'elle dise, écoute chérie, des fois j'ai du désir, mais j'ose pas te le dire, l'homme se dit, ouf, ma femme me désire.
Béni de Dieu, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi associé un petit peu à ce qui se passait dans votre famille, à votre éducation ?
Bon, je peux associer ça aussi,
Ça veut dire que c'est pas des choses dont on parlait volontiers, peut-être qu'il y avait beaucoup de religion, et qu'il y avait un petit peu de retenue par rapport à tout ça.
Bon, j'ai beaucoup passé du temps en dehors de la famille, surtout pour des raisons d'études. Je suis grandi presque il y a des milliers où j'étais pas avec les parents, quelque chose comme ça.
Ouais, mais c'est peut-être aussi votre caractère. Alors, il y a une autre chose qu'il faut que vous fassiez. Non, mais que je vous conseille de faire, c'est de lui dire, j'aimerais bien qu'on invente un petit code entre nous. Parce que si les mots sont difficiles pour vous, si c'est dur de lui dire, écoute, moi, j'ai envie de faire l'amour, est-ce que ça te dit? Ou, je te désire, ou, voilà. Si c'est pas facile, eh ben, vous lui dites, un petit signal, vous lui dites, quand je te caresse l'oreille, la bouche, ou quand je te passe la main gauche sur les cheveux ou sur l'oreille droite, ou quand je te prends la main comme ça, ça voudra dire que j'ai envie de faire l'amour. Et parce que j'ose pas te le dire. Donc souvent, un geste, c'est beaucoup plus facile, ou un code en mots, ou en, comme c'est vous qui allez trouver, hein. Et puis, vous pouvez aussi lui dire...
Une chanson,
vous chantonnez, voilà, très bonne idée Caroline. Et puis, vous pouvez lui dire aussi, écoute, quand je ferai ça, tu me demandes, si j'ai bien compris, tu as envie? Alors, vous lui direz oui, puisque ce sera ça. Et qu'elle vous demande éventuellement, de 0 à 10, t'as envie à combien? Vous voyez? J'aime bien parce que, oui, mais pour les émotions, c'est intéressant. Parce que si c'est une petite envie comme ça, juste pour le plaisir de le dire, des fois, on a un peu envie, mais bon, on peut pas le faire tout de suite ou quoi. Voilà, bon. ça met un petit peu d'humour aussi. Et vous pouvez aussi faire une autre chose, hein, dont je parle souvent, c'est que vous pouvez lui écrire, mm-hmm. lui dire, tu sais, moi je te désire souvent, mais j'ose pas te le dire. Et elle pourra le relire de temps en temps et se dire, mon homme me désire quand même s'il ose pas le dire. Bon, vous pouvez aussi lui dire que vous la désirez en disant, quand je t'embrasse dans le cou, sur la nuque, ça voudra dire que je te désire. Ou, à vous de trouver.
Voilà, et on vous souhaite une excellente journée à Kisangani, béni de Dieu. Les 5 dernières minutes de l'émission, on va quand même donner la parole à Serge, hein, qui est à Ouaga, au Burkina Faso. Bonjour Serge, on vous écoute.
Oui, bonjour madame, bonjour RFI.
Oui, mmh. allez-y.
Oui, madame, docteur, moi j'ai un souci concernant la sexualité. Je perds facilement l'érection pendant les rapports sexuels. Mmh. Et puis, je ne sais pas, il y a eu quelques temps où je me masturbais beaucoup et puis j'ai pris quelques produits aphrodisiaques. Donc, du coup, ma sexualité est devenue faible.
Il y a beaucoup de vent, non, apparemment. Excusez-moi, Serge, il y a énormément de vent. Au moins, votre téléphone, essayez de le protéger avec la main parce que sinon, on n'entend strictement rien. Allez-y, continuez.
Oui, oui. Je dis, je perds facilement l'érection mm-hmm. pendant les rapports sexuels. Mm-hmm. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû à un certain temps où je me masturbais beaucoup mm-hmm. Mais le problème est que j'ai peur de parler à ma femme. Mmh. Et aussi, mon sexe diminue de taille.
Alors, première question, oui. c'est est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous fumez ?
Oui, je fume.
Eh bien,
oui,
écoutez, je vais vous dire, alors, la première chose à faire, vous avez quel âge ?
J'ai 36 ans.
D'accord. La première chose à faire quand on veut avoir des bonnes érections, c'est de pas fumer. Parce que quand vous fumez une cigarette, par exemple, maintenant, vous fumez une cigarette, pendant 5 heures après cette cigarette, les érections sont moins bonnes, d'au moins 20%. Ça a été étudié. Pourquoi ? Parce que la fumée du tabac resserre les artères dans le pénis, mais pas que dans le pénis, hein, mais là, on parle de l'érection. Et du coup, il faut absolument arrêter de fumer. Vous fumez combien de cigarettes ?
Oh, je peux fumer 8 à 11 bâtons par jour.
Parce que si vous voulez, en plus, quand on fume, le fait de fumer, si vous voulez, le soir, ça fait que pendant la nuit, vous avez des érections moins bonnes quand vous dormez, sans vous en rendre compte. Et si ça dure pendant des années, eh bien, on constate que le pénis peut diminuer un petit peu de taille parce qu'au lieu d'avoir des érections complètes à 100%, c'est des érections à 80%, et bien au bout de 10 ans, 20 ans d'avoir des érections moins bonnes, le pénis, il est en moins bonne érection. Donc, il ne faut vraiment pas fumer. Et j'ajoute deuxième chose, faire du sport.
Une petite information, il nous reste moins d'une minute. Dans son témoignage, Serge dit qu'il achète des aphrodisiaques dans la rue.
Ouais, ben ça, c'est pas une bonne idée non plus, parce que maintenant, vous savez que les médicaments qui aident à avoir une érection sont en générique, donc ils sont pas chers.
Allez à
donc,
la pharmacie.
Autant aller à une pharmacie et en acheter à cet endroit-là, quoi. Et puis, la masturbation, ça n'empêche pas du tout d'avoir des érections, mais la pornographie, ça peut le faire parce que ça met des images dans la tête qui sont pas du tout les mêmes que la réalité. Et si on est trop habitué, bah, ça marche moins bien après.
Et le problème de communication qu'évoque Serge, pour en parler justement, un petit peu, il a peur du jugement de son épouse.
Donc ce qui est important, c'est de lui dire que vous la désirez, que vous l'aimez et que c'est peut-être le tabac et que vous allez arrêter de fumer. Voilà ce qu'il faut lui dire, je pense. Hein, si vous... Donc je vous dis, je vous encourage à fond pour arrêter de fumer. En plus, vous allez faire des économies pour vous acheter des vrais médicaments pour l'érection, pour vous aider à reprendre confiance.
Voilà Serge pour ses conseils et notre émission touche à sa fin. Merci. Un grand merci docteur Solano d'avoir répondu à toutes ces questions de nos auditrices et auditeurs. Et on vous dit bien sûr à jeudi prochain dans Priorité Santé.
À bientôt Caroline et merci à tous nos auditeurs.
Et Ophélie Lassen, Juliette Brault, Didier Bleu, Diego Tenorio ont préparé, fabriqué, réalisé cette émission. Demain, on parlera de la croissance infantile, du développement, du suivi, de la surveillance, prévenir certaines maladies associées. On attend bien sûr toutes vos questions sur la santé de vos enfants, vos parents. 33 1 84 22 75 75. À demain. D'ici là, portez-vous bien et pensez-y, hein, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous, à chaque étape.